Europe 1, il est 22h. Le journal, Rémi Bossaron.
On a d'abord entendu une sorte de première petite explosion avec un petit tremblement. Et puis tout de suite après, une énorme explosion qui a tout soufflé. C'était mais apocalyptique.
Situation chaotique et bilan humain très lourd à Beyrouth après les deux explosions qui ont retenti dans le port de la ville cet après-midi. La cause est toujours inconnue. Le Liban appelle à l'aide ses pays amis. Vous entendrez ce témoignage très fort d'une Française qui a vécu ces explosions sur place. Nous ferons le point sur les informations et surtout les inconnus qui demeurent quelques heures après ces explosions ressenties à des dizaines de kilomètres à la ronde. La pandémie de Covid en France, c'est le masque qui s'impose un peu partout, notamment à Paris. Ce sera bientôt obligatoire. Ce sont aussi ces soignants récompensés par une prime. Certains étaient oubliés jusqu'à aujourd'hui, les aides à domicile. Ils recevront bien eux aussi une prime exceptionnelle, annonce d'Emmanuel Macron.
Aujourd'hui, je veux reconnaître pleinement le rôle qui a été celui de justement toutes les aides à domicile durant la période du Covid.
Nous prendrons également la direction de l'Espagne au lendemain de l'annonce de l'exil de l'ancien roi Juan Carlos. Il y a eu aujourd'hui la réaction très attendue du gouvernement espagnol. Et puis, nous prendrons de la hauteur direction l'espace pour ceux qui en ont les moyens. En tout cas, être un touriste dans les étoiles, ce sera possible dès l'année prochaine. La météo complète, ce sera évidemment à la fin de ce journal avec Valérie Darmon. Et puis, comme chaque soir cet été, on vous proposera un peu de lecture avec les conseils précieux de Stéphane Place et on essaiera de trouver l'inspiration avec la belle idée offerte par François Claus.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Au moins 50 morts et 2750 blessés, c'est la dernière estimation du ministère de la Santé libanais. Quelques heures après la double explosion qui a secoué le port de Beyrouth et même la capitale du Liban tout entière. La situation sur place est chaotique. On va faire le point dans quelques instants sur les informations dont nous disposons et sur les inconnues qui sont nombreuses. Mais d'abord, écoutez ce témoignage de Sabine. Elle se trouvait, les Françaises, elle se trouvait à quelques centaines de mètres du port au moment des explosions.
On a d'abord entendu une sorte de première petite explosion avec un petit tremblement, donc ça m'a surprise. Et puis tout de suite après, une énorme explosion qui a tout soufflé. Tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir des débris, du verre. C'était mais apocalyptique. Enfin, je pensais pas vivre ça un jour dans ma vie. Est-ce que je me mets à l'abri au risque que les vitres te pètent dessus? Est-ce que tu continues à errer dans la rue? J'ai appelé tout de suite ma mère, qui mes parents qui sont en France, au moins pour leur parler, ne sachant pas si la prochaine explosion allait être sur moi ou pas. Puis après, j'ai erré pendant une petite heure. C'était vraiment... Tout le monde klaxonnait, tout le monde hurlait, des gens en sang, toutes les vitrines sont explosées. Et sinon, c'est ambulance, des appels à donner le sang, enfin voilà.
Le témoignage de Sabine, cette Française installée à Beyrouth après cette double explosion. On va faire le point avec vous, Damien Mestre, sur les premiers éléments à notre disposition pour expliquer ces explosions qui ont fait vaciller la capitale libanaise. L'enquête est en cours, mais une piste a déjà été esquissée par les autorités.
Oui, un responsable de la sécurité libanaise évoque en ce moment de possibles matières très explosives présentes sur le lieu du drame au niveau du port de Beyrouth. Et ce que l'on sait également à partir des images, c'est qu'il y avait déjà un incendie sur place. Un incendie qui aurait pu donc provoquer l'explosion. En ce qui concerne le bilan humain, Rémi, vous l'avez dit, au moins 50 morts, 2700 blessés. Mais selon les experts, il pourrait être beaucoup, beaucoup plus lourd que ça. Tout à l'heure, un colonel de la sécurité civile, spécialiste de ce type d'accident, était plus pessimiste avec nous par téléphone. Selon lui, au vu des images, il est probable qu'il faille parler de centaines de morts et de plusieurs milliers de blessés. L'explosion est tout bonnement monstrueuse, m'a-t-il dit, avec des conséquences certaines à plusieurs kilomètres à la ronde. Selon les premiers témoignages, les déflagrations, elles auraient été entendues un peu plus de 200 kilomètres des côtes libanaises.
Merci Damien Mestre. Et ce soir, le Premier ministre libanais Hassan Diab appelle les pays amis à aider le Liban. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, assure que la France est aux côtés du Liban et la France est prête à lui apporter son aide et son assistance. Et je vous rappelle donc encore une fois ce bilan évidemment provisoire, au moins 50 morts et 2750 blessés à Beyrouth. C'est la dernière estimation du ministère de la Santé libanais. Emmanuel Macron lui-même l'a reconnu, ils étaient les oubliés de la prime Covid. Les personnels de l'aide à domicile auront droit, eux aussi, à cette prime exceptionnelle, annonce faite par le président de la République ce matin lors d'une visite à Toulon auprès justement de ces salariés qui veillent sur les personnes âgées ou dépendantes.
Ils ont, dans la période que nous venons de vivre, dans cette période du Covid, joué un rôle essentiel. Mais d'apporter le repas à domicile, d'apporter les soins, et ces femmes et ces hommes ont été les oubliés de la prime Covid. Et c'est pourquoi aujourd'hui je veux reconnaître pleinement le rôle qui a été... celui de justement toutes les aides à domicile durant la période du Covid. Le ministre a pu mobiliser avec l'ensemble de ses services des financements à hauteur de 80 millions d'euros et les départements se sont aussi pleinement mobilisés et mobiliseront 80 millions d'euros de leur côté. Et donc nous aurons avec ces 160 millions d'euros la possibilité d'apporter la prime Covid aux justement personnels. Les dossiers seront instruits pour qu'avant Noël, toutes ces primes Covid soient payées.
L'annonce d'Emmanuel Macron au micro de Stéphane Frangiste, une reconnaissance qui était très attendue, attendue notamment par Marie-Béatrice Leveau, présidente de la Fédération des particuliers employeurs, même si il reste, selon elle, encore quelques incertitudes.
Que les personnes qui travaillent au domicile, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, soient reconnues dans la grande filière de reconnaissance publique pendant cette période de confinement, c'est important. Maintenant, il me reste un petit doute. Parce que quand on parle des auxiliaires de vie, on cible évidemment, et c'est légitime, les salariés qui travaillent dans les associations, dans les structures d'aide à domicile. Je n'ai pas entendu pour l'instant que les assistantes de vie qui sont en CESU, qui ont été plus de 230 000 à travailler pendant la période de confinement, je n'ai pas entendu que ces personnes seraient concernées de manière claire par le projet de prime de 1 000 euros. Si ces salariés n'étaient pas dans le dispositif qui vient d'être annoncé, c'est évident qu'il y aurait discrimination, qu'on serait à nouveau dans ces salariés du dernier kilomètre, comme je les appelle, qui sont finalement encore plus invisibles que les autres. Et là, il y aurait vraiment une discrimination pas très juste.
Marie-Béatrice Leveau, présidente de la Fédération des particuliers employeurs. Elle était interrogée par Olivier Samin. Sur le front de la pandémie de Covid-19, l'équilibre est fragile en France. Avertissement aujourd'hui du Conseil scientifique. Il prévient, nous pouvons basculer à tout moment. Il estime par ailleurs que la survenue d'une seconde vague est hautement probable en automne ou en hiver dans le pays. Dans ce contexte, cependant, on apprend ce soir que les spectacles ou les concerts qui rassemblent plus de 5000 personnes pourront être autorisés à partir du 15 août. Annonce du ministère de la Culture. Ce sont les préfets qui pourront les autoriser si certaines conditions sanitaires sont respectées, comme la distanciation d'un siège entre deux personnes ou évidemment le port du masque. Le masque, justement, qu'il faudra bientôt porter en extérieur à Paris, dans certaines zones très fréquentées. C'est la volonté de la mairie, suivie par la préfecture de police de la capitale. Yasmina Katou, que sait-on ce soir de l'application concrète de cette volonté ?
Alors, ce que l'on sait pour l'instant, c'est que les quais de Seine, les marchés à ciel ouvert seraient concernés par le port du masque obligatoire. Les alentours des gares parisiennes aussi, précise Anne Souiris, chargée de la santé à la mairie de Paris. Mais une telle décision est prise par la préfecture de police. La préfecture qui confirme que des échanges ont bien eu lieu pour étudier les mesures à mettre en place dans la capitale. Le port du masque dans certaines zones pourrait devenir obligatoire dans les prochaines 48 à 72 heures. Ça, c'est la première étape. Dans un deuxième temps, l'obligation pourrait s'étendre à d'autres lieux, explique la mairie de Paris. Sont visés les endroits où il y a beaucoup de touristes, autour des musées, des grands magasins, dans les parcs et jardins. Pour établir un plan des zones qui devraient être concernées à la rentrée, des discussions avec les mairies d'arrondissement sont prévues.
Merci Yasmina Katou pour ces explications. On va donc peut-être le passage au mode obligatoire pour le masque dans les rues de Paris, certaines rues de Paris en tout cas. Un violent incendie est en cours ce soir près de Martigues. Il s'est déclenché dans l'après-midi en plein massif forestier. Il a déjà ravagé plus de 500 hectares de végétation. Plus de 1000 pompiers et 7 avions canadairs sont en action et des campings sont en cours d'évacuation, comme celui qui est géré par Chantal Ravonneau, jointe il y a quelques instants pour Europe 1 par Martin Lange.
Le camping est cerné par les flammes et par les feux, donc on nous a fait évacuer. Ça a commencé, je ne sais pas, 17h30, 18h, et c'est parti de Martigues, et ça s'est rapproché à une vitesse folle. Donc on a eu une alerte de se préparer, de ne pas affoler les clients, mais de commencer à leur dire qu'il fallait préparer des affaires. Et bon, le feu est arrivé très très vite. On a évacué le camping et là on est sur la plage. Une partie, les gens qui ne peuvent pas marcher, ils ont discuté, sont partis en voiture bien avant. J'ai fait évacuer bien avant pour qu'ils puissent partir dans le village de la Couronne à contresens du feu. Donc eux sont au moins dans leur voiture en sécurité. Et après, tous les plus valides, ouais, on est descendu à la plage qui est à 100 mètres. Et voilà. Le feu continue à brûler, ça continue. Donc on attend de voir. Il y aura peut-être une évacuation maritime, mais bon, il y a peut-être 600 personnes sur la plage, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer.
Chantal Ravonneau, donc gérante d'un camping près de Martigues, évacuée ce soir. Elle était interrogée donc par Martin Lange. L'étranger et l'Espagne, où est donc passé Juan Carlos, l'ancien roi d'Espagne, en exil désormais? Les médias espagnols affirmaient qu'il se trouvait en République dominicaine. Information démentie ce soir par ce pays des Caraïbes. Pendant ce temps, en Espagne, c'est toujours le silence radio du côté du Palais Royal. Mais le gouvernement, lui, a réagi. Aujourd'hui, c'était très attendu, le Premier ministre a mis en avant la défense des institutions monarchique. Nicolas Feldman est à Madrid pour Europe 1.
Pour Pedro Sanchez, la conférence de cet après-midi ressemblait à un numéro d'équilibriste. Oui, la maison royale a bien fait d'accepter l'exil de Juan Carlos. Oui, l'ancien roi sera bien jugé s'il le faut, mais non, le gouvernement ne sait rien de son exil, ni même aujourd'hui où il se trouve. Et pourtant, dans les médias espagnols, l'itinéraire de Juan Carlos se précise. Un départ le week-end dernier au Portugal, avant de s'envoler ensuite vers les Caraïbes et la République dominicaine. L'ancien roi y dispose d'amitiés solides. Un scénario difficile à accepter ici dans les rues de Madrid, comme pour Patricia, avec cette impression que son ancien roi cherche à se soustraire à la justice.
C'est une honte pour le pays. Moi, je suis républicaine, et le fait que Juan Carlos ait quitté l'Espagne, ce n'est pas un bon signal. Pour moi, il devrait rester ici pour rendre l'argent qu'il a volé et répondre légalement de ses actes devant un tribunal.
Et répondre de ses actes, c'est justement ce que rappelle son avocat pour qui Juan Carlos, où qu'il soit, reste à la disposition de la justice espagnole.
Nicolas Feldman, en Espagne, pour Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit. Rémi Botsaron.
Sa fuite n'aura pas duré plus d'une journée. Le chauffard qui avait renversé et écrasé un père de famille ce matin près de Lens, dans le Pas-de-Calais, a finalement été interpellé au volant de son camion de 40 tonnes. L'individu avait même traîné sa victime sur plusieurs mètres. Et pourtant, ce soir, devant les enquêteurs, Maxime Carlier, il affirme ne pas s'être rendu compte du drame.
Oui, effectivement, une thèse difficilement compréhensible. Je ne me suis rendu compte de rien la nuit dernière. Voici ce qu'il aurait répondu à la police avant d'être arrêté sur son lieu de travail, une société de transport lilloise. C'est pourtant son camion qui a embouti plusieurs voitures dans une rue étroite vers 4h du matin. Rétroviseur cassé, tôle arrachée, ce boucan réveille des riverains. L'un d'eux, accompagné de son fils de 18 ans, tente de stopper l'auteur des dégradations. Ils se lancent à sa poursuite, parviennent à son niveau, descendent de leur voiture pour discuter, échanger, peut-être avoir des explications, sauf que le chauffard reprend la route, enclenche la première, percute le père de famille de 54 ans, le traîne sur plusieurs mètres avant de l'écraser. Une scène extrêmement violente. Le quinquagénaire décède sur place malgré l'intervention des secours. Le fils de 18 ans, choqué, est transporté à l'hôpital. C'est son audition qui pourra apporter de nouveaux éléments à l'enquête.
Merci Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. C'est un rapport qui ternit un peu plus l'image du patinage artistique français. Une vingtaine d'entraîneurs mis en cause pour des affaires de violence, voire de harcèlement sexuel. C'est le résultat de l'enquête demandée par le ministère des Sports après les révélations de l'ancienne patineuse Sarah Abitbol, elle-même victime de viol de la part de son ex-entraîneur au début des années 90. Écoutez la réaction ce soir de Nathalie Péchala, la nouvelle présidente de la Fédération de patinage, jointe pour Europe 1 par Cyril de la Morinerie.
Je pense qu'on s'est construit à l'opposé de l'ancien système, où justement le but c'est d'être beaucoup plus transparent, qu'il y ait beaucoup plus de communication, de partager les informations, de travailler ensemble pour pouvoir lutter plus efficacement contre les violences sexuelles. L'idée c'est que les signalements remontent à la référente intégrité qui a été nommée il y a quelques mois, et que le dossier soit traité en lien avec le ministère des Sports. Nous avons réactivé la commission disciplinaire, nous avons créé des codes de bonne conduite pour le sportif de haut niveau, mais aussi pour les encadrants, notamment lors des déplacements internationaux avec des mineurs. Voilà, et puis surtout, on est en train de créer un comité éthique et déontologique au sein de la FFG, mais il y a énormément de choses qui sont déjà, d'ores et déjà, mises en place. Alors, on n'est pas encore sorti d'affaire, hein. On n'attendait pas simplement ce rapport-là. Il y a encore tout un rapport sur une enquête administrative et financière qui sortira à l'automne. On a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et on est toujours sous pression.
Nathalie Péchala, la présidente de la Fédération de patinage, jointe donc pour Europe 1 par Cyril de la Morinerie. Et puis enfin, partir dans l'espace comme un simple touriste, beaucoup en rêve. La compagnie Virgin Galactic veut en faire une réalité dès l'année prochaine. Mais évidemment, ce ne sera pas donné à tout le monde. 600 personnes ont déjà réservé leur billet, un billet à 250 000 $. Alors à ce prix-là, lors d'Autriche, on aura droit à quoi ?
Alors, ce n'est pas un voyage en orbite autour de la Terre, mais vous pourrez flotter pendant quelques minutes à la frontière de l'espace. Les touristes seront dans un vaisseau qui montera à 80 km d'altitude, et c'est à 80-100 km qu'on établit la frontière de l'espace. Non. Les moteurs seront coupés pendant quelques minutes, ce qui créera une sensation d'apesanteur, et les passagers pourront détacher leur ceinture pour flotter, promet le milliardaire Richard Branson. Il y a 6 places pour les passagers, 2 pour les pilotes. Et à 80 km d'altitude, évidemment, les touristes auront une vue spectaculaire sur la Terre. Chaque siège est près d'un grand hublot et une caméra est fixée sur chaque hublot pour que le passager puisse être pris en photo avec la Terre en arrière-plan. Et puis, l'appareil ensuite commencera sa redescente vers la Terre. Alors, c'est un projet que Richard Branson a depuis plusieurs années déjà. Il n'est pas le seul. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, est lui aussi engagé dans cette course au tourisme spatial. Richard Branson a plusieurs fois repoussé cette date du premier voyage touristique dans l'espace. Il y a eu un accident même avec ce vaisseau en 2014 qui avait causé la mort du copilote. Mais cette fois, il affirme qu'à l'automne, 2 tests grandeur nature auront lieu avec 2 vols habités avant donc que le milliardaire lui-même ne s'envole au début de l'année 2021.
Merci Laure d'Autriche de nous offrir un peu de ce rêve qu'on ne peut pas s'offrir nous-mêmes. La météo pour terminer, Valérie Darmon. Le beau temps est partout et les températures sont en hausse pour tout le monde.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Valérie Darmon, c'est à vous.
Absolument, à part toujours sur la pointe bretonne où le ciel va rester nuageux matin comme après-midi, mais partout ailleurs le soleil qui va s'imposer très largement et sans difficulté, pas question de nuages ni d'orages, le vent se calme en plus sur le pourtour méditerranéen et dans la vallée du Rhône. Les minimales sont encore un petit peu fraîches, elles s'échelonnent de 9 à 15 degrés et 15 à 20 autour de la Grande Bleue. Les maximales sont en hausse sensible, comme prévu, 24 à 31 sur la moitié nord, 28 à 33 sur la moitié sud et la pointe bretonne qui reste plus fraîche avec des maximales qui ne dépassent pas les 23 degrés.
Merci Valérie Darmon. Et pour terminer sur Jeanne, je vous rappelle en quelques mots simplement ce bilan évidemment au Liban. C'est l'information de la soirée. Au moins 50 morts et 2750 blessés causés par la double explosion dans le port de Beyrouth, ressenti à des dizaines de kilomètres à la ronde. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qui a causé cette explosion. Dans un instant, un livre pour l'été, comme tous les soirs, avec Stéphane Place en collaboration avec la célèbre librairie Mola à Bordeaux. A tout de suite sur Europe 1.
Rémi Botsaron sur Europe 1.
Un livre pour l'été, c'est le conseil de lecture tous les soirs de Stéphane Place en collaboration avec la librairie Mola, bien connue des Bordelais. Au menu ce soir, un genre qui fait appel à notre imaginaire et qui garantit logiquement un dépaysement complet, ce qui n'empêche pas une certaine réflexion, même une certaine profondeur de réflexion, disons-le. On parle du genre fantastique et Stéphane Place, ce n'est pas juste un divertissement.
Qui assimile le roman fantastique à un récit forcément peuplé de combattants héroïques, de magiciens aux pouvoirs incroyables, tiens, une licorne qui vient de griller la priorité à un dragon en colère. J'exagère à peine, il y a tout de même des recettes vues et revues et qui, à force d'être copiées, peuvent lasser. Alors justement, l'un des mérites d'un long voyage que signe Claire Duvivier, c'est d'entraîner le lecteur dans une aventure qui n'obéit pas à ses codes un peu faciles. Là, le narrateur est un homme simple qui deviendra pourtant le témoin privilégié de la fin d'un empire. C'est le coup de cœur d'Ulysse Ronet, libraire chez Mola.
Claire Duvivier, elle a écrit un roman de fantasy qui est vraiment épatant, qui a un vrai souffle. C'est un roman de fantasy où vous allez suivre un jeune garçon qui s'appelle Lies, qui est originaire des îles de l'archipel et qui va très vite être rejeté par sa famille et les siens et qui va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Malvin, qui est administratrice sur cette île et qui est une descendante d'une des 4 grandes lignées de l'Empire. Le temps va passer, ils vont être obligés tous les deux de retourner sur le continent et on va suivre leur histoire et cette histoire elle est liée à la chute de l'Empire. Ici vous avez un vrai coup de cœur, notamment pour l'écriture de Claire Duvivier qui est belle, qui est poétique, qui est très immersive dès les premières pages, dès les premières lignes. Ce qui est aussi beau, c'est la façon qu'elle a de nous partager son amour pour les mots, pour la langue, pour l'interculturalité. C'est très important dans ce roman. En roman de fantasy, on a souvent l'habitude de voir la fantasy comme du Tolkien, c'est-à-dire des orques, de la magie, des guerres, de la brutalité. Et là, c'est pas du tout le cas. Si vous voulez, l'intrigue Elle monte en puissance petit à petit. Tout est fait très subtilement, très intelligemment. Ce sont des rebondissements sociaux et politiques. Le public visé est vraiment très très large parce que c'est vraiment une histoire humaniste.
Un parti pris, un choix que revendique pour son premier roman, Claire Duvivier.
Dans un récit fantastique, d'habitude, on montre les guerriers, les rois, les reines. Moi, j'ai envie d'offrir plutôt un récit qui soit à hauteur d'homme et de femme. Effectivement, par la vie de Liesse, qui est un homme comme les autres, qui est un secrétaire. Je voulais montrer que ces existences-là aussi avaient énormément d'importance. Je pouvais vivre l'histoire, pouvais en faire partie. Et que finalement, on s'identifiait peut-être plus avec des héros dont on était plus proche, comme Liesse, par exemple. L'idée, c'était aussi de montrer un peu cet empire un peu décadent dans lequel les personnages évoluent, qui va être à l'origine de grands bouleversements historiques que vont subir les personnages. Des personnages qui soient eux aussi, comme nous-mêmes d'ailleurs, les jouets de la grande histoire, en fait, et qui la subissent aussi sans avoir forcément de prise sur elle.
Un peu plus de 300 pages pour un long voyage réussi et qui met en exergue des valeurs de tolérance et d'humilité aussi.
Le conseil de lecture fantastique de Stéphane Place. Et puis autre rendez-vous estival pour Europe 1, vous le savez tous les soirs, c'est La Belle Idée. On va retrouver François Claus pour saluer une initiative qui nous permet de surmonter cette crise en France. Vous entendez beaucoup parler de masques évidemment dans l'actualité, encore une fois dans ce journal. Mais ce soir, François Claus s'intéresse à des masques particuliers. Il s'intéresse aux masques du cœur.
Oui, bonsoir.
Eh bien oui, on veut vous rendre un coup de chapeau parce que les masques du cœur, cette opération, c'est ainsi que vous l'avez appelée, vous réussissez à distribuer des centaines de milliers, plus d'un million même de masques au 12 juin dernier, adressés spécifiquement aux associations, aux bénévoles qui travaillent sur le terrain auprès des plus fragiles. On pense notamment aux SDF, qu'ils ont besoin d'être eux-mêmes doublement protégés. Ils n'en avaient pas, sans vous, peut-être les moyens.
Ben écoutez, c'est effectivement une grande satisfaction. Je ne vais pas dire qu'on est content que la pandémie se poursuive, mais je vois que notre initiative est encore plus d'actualité, puisque je crois qu'il faut qu'on continue, et j'insisterai bien là-dessus, en tant que médecin et membre de l'Académie. Et donc la fondation de l'Académie de médecine, si vous voulez, vers le mois de mai, obéissant à son Académie, dont elle fait partie, donc à l'Académie nationale de médecine, qui, je vous rappelle, dès le début avait recommandé le port du masque. Et là, je voudrais juste très rapidement faire une petite parenthèse, si vous voulez, c'est la différence entre les intellectuels explicatifs, les grands médecins et les pragmatiques. Et je crois que là, on a été pragmatique et que le masque, il faut bien le répéter. Et vous le savez bien, vous, c'est un masque pour tout le monde et un masque protège tout le monde. Donc, c'est très important.
Alors, c'était bien de le rappeler, effectivement. C'était bien de le rappeler et qu'on soit obligé de le porter 4 mois après nous avoir dit que c'était peut-être pas du tout utile.
Voilà,
on en parlait hier avec le professeur d'éthique médicale Emmanuel Hirsch sur la manière dont le message a été définitivement brouillé, que c'était compliqué aujourd'hui. Mais vous, dès le départ, vous y étiez. Et le but, c'est que ceux qui s'occupent de la réinsertion sociale, les bénévoles, les associations, le soutien alimentaire, eh bien, ils sont en première ligne du combat social, ils ont besoin d'être protégés, et ils viennent chez vous.
Eh bien, exactement. Alors, si vous voulez, nous, on a eu la chance de rencontrer un groupe de cadres dirigeants franco-chinois qui s'appelait Action Support France, et on a pu, donc, à la Fondation de l'Académie de médecine, très vite avoir cette idée de faire une plateforme pour recueillir d'une part des dons et surtout avoir des soutiens de grands donateurs, à la fois des amis chinois avec lesquels l'Académie travaille souvent, la logistique, et ça, il faut le reconnaître, nous a été aidé pour l'importation. On n'a pas payé souvent les transports ou très peu. Ensuite, les douanes françaises ont fait un effort, puisque en tant que fondation reconnue d'utilité publique, on n'a pas eu à payer de douane. Et comme ça, comme vous l'avez dit en début d'émission, on a pu importer plus d'un million de masques maintenant, enfin avoir à notre disposition un million de masques. On pensait que c'était trop. Mais finalement, on a aidé plus de 60 petites associations, celles qui n'étaient pas en vogue. On a aidé aussi des grandes associations comme SOS Médecins, qui on a distribué 160 000 masques, comme le SAMU Social. Et puis maintenant, si vous voulez, on peut même en donner, ce qui est très intéressant, puisqu'au départ, l'idée majeure, c'était protéger ceux qui nous protègent, disaient les indigents, si je puis dire. Et l'idée maintenant, c'est que comme on en a encore et qu'on risque d'en avoir peut-être encore un peu plus, ce qui serait très bien, on peut en donner aussi à quelques indigents qui, lorsqu'ils sont en communauté, on a découvert des associations exceptionnelles qui existent dans notre pays, notamment des centres pour faire sa toilette, laver son linge pour les SDF, des enfants qui sont mis à la porte de chez eux parce qu'ils ont des pratiques sexuelles qui ne plaisent pas, et je pense notamment à LGBT. Enfin, donc si vous voulez, on est en relation avec toutes des associations pour les distributions de repas, etc. Et on les protège. Et maintenant, on peut en donner également à tous les gens que l'on protège.
Et c'est pour ça qu'on voulait ce soir, professeur Villet, vous adresser notre coup de cœur et vos remerciements pour cette belle opération Les Masques du Cœur.
François Claus, qui était donc pour cette bonne idée du soir avec le professeur Villet, secrétaire général de la Fondation de l'Académie de médecine, pour cette initiative Les Masques du Cœur. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de la presse qui vous attendent demain en kiosque. Mais d'abord, comme tous les soirs, un peu de musique. C'est facile, facile, c'est le titre de cette chanson de Camélia Jordan. Les unes de la presse, voyons les unes qui vous attendent demain. Il n'est pas question du Liban sur ces unes de la presse. Évidemment, les journaux français ont bouclé avant cette catastrophe qui a frappé Beyrouth ce soir. Et ces très très nombreux blessés et morts également qu'on compte désormais à Beyrouth, dans la capitale libanaise. Évidemment, c'était la grande information du soir. Mais on trouve des masques en une du Parisien, par exemple. Le masque s'impose à Paris. On voit Anne Hidalgo elle-même masquée, la maire de Paris qui veut imposer le masque dans certaines zones de la capitale. Et cette annonce doit être suivie des faits dans les 48 ou 72 heures, sans doute, dans des zones les plus fréquentées. Des masques également en une de Libération sur une spectatrice dans une salle de cinéma. Le sombre été des salles obscures, c'est le titre de Libération. Titre également, évidemment, qui évoque le difficile été des cinémas qui ont bien du mal à se remettre de la crise sanitaire liée à cette pandémie de Covid-19 et à l'absence de spectateurs dans leurs salles. Et puis, un homme en une à la fois de l'Humanité et du Figaro. Cet homme, c'est Juan Carlos, l'ancien roi d'Espagne en exil désormais. Juan Carlos, grandeur et décadence d'un roi, ça ce sont les mots du Figaro. L'Humanité frappe beaucoup plus fort avec ce titre en une à côté d'un Juan Carlos dans son uniforme militaire. Juan Carlos, le roi de la honte, titre L'Humanité. Et puis si on regarde du côté des régions, la Nouvelle République, Centre-Presse ou Ouest-France, un même titre en une, un même thème, c'est la sécheresse. Faut-il craindre la sécheresse? La réponse est oui, manifestement. C'est ce que nous apprennent ces quotidiens de la presse quotidienne régionale. 22h passées de 30 minutes, c'est évidemment la fin de cette longue édition consacrée en grande partie à cette catastrophe au Liban. Il y a Beyrouth frappé par cette double explosion, mais tout de suite vous retrouvez évidemment Sabine Marin pour la Libre Antenne sur Europe 1.
Bonsoir Rémi.
Bonsoir Sabine.
Rendez-vous à 23h avec vous pour les prochaines infos.